BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros des cryptos et c'est chaque vendredi. Bienvenue à tous, ils sont là nos pros aujourd'hui. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher, à la tête de Meria aussi. Bonjour Owen.
Bonjour.
Bienvenue et Claire Balva. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Directrice générale de l'ADAN. On va bien sûr refaire la saison parce que c'est la dernière de la saison avant l'été. On se retrouvera à la rentrée bien sûr. Et puis bien sûr revenir sur les grandes actualités qui ont marqué cette nouvelle semaine. Et les cours du Bitcoin, ah, il les suit à la trace graphiquement. C'est notre spécialiste avec Xavier Fenot qui aussi nous accompagne régulièrement. Vincent Gann est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume.
Analyste technique indépendant. Bon, on est quand même à nouveau au-dessus des 60 000 là. On est en train peu à peu de remonter de plus en plus. C'est pas encore super nerveux, mais voilà, on s'affranchit des 60 000 à 64 246 en ce moment pour le Bitcoin qui a quand même fait mercredi, donc c'est il n'y a pas si longtemps, un nouveau plus bas annuel avant de se reprendre. On en est où dans le cycle, Vincent?
Oui, alors, cher Guillaume, comme c'est la dernière du mois de juillet, peut-être du mois d'août aussi, je vais mouiller un petit peu. Donc, effectivement, alors, depuis exactement le mercredi 1er juillet, le cours du Bitcoin se reprend. Il a fait un plus bas à $57,750. Ça dépend des exchanges, mais voilà, $57,750. Il a un drawdown d'environ 54% depuis son record historique du mois d'octobre dernier. Et en fait, où est-ce qu'on en est? Bien, écoutez, de manière assez déconcertante pour certains, Bitcoin continue de suivre son cycle de 4 ans et cette étape très particulière est très documenté aussi du, vous savez, le fameux marché baissier cyclique de son petit bear market en anglais. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que les mois passent et puis c'est ce schéma qui s'impose, c'est ce schéma qui se confirme. Et la bonne nouvelle pour les auditeurs et investisseurs, c'est que ce marché baissier cyclique, on le connaît bien statistiquement. Je vais vous donner trois repères. Il dure en moyenne 12 mois. Il démarre 500 jours en moyenne après le halving et se termine en moyenne encore 500 jours avant le prochain halving. Vous savez, la réduction de la prime de minage qui a lieu sur Bitcoin tous les 4 ans. Bref, lorsque vous faites un peu la moyenne de tout ça, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes à peu près à 75-80% du développement de ce marché baissier cyclique. Donc l'été devrait rester un peu chaotique. Là, c'est un rebond à court terme. Je pense pas que les $57,750 soient le point de bas final. Et une fois l'été passé, lorsqu'on va arriver à la fin de l'été, au début de l'automne, c'est probablement là où nous pourrions avoir potentiellement le meilleur timing de cette fin de décennie pour rentrer sur Bitcoin. On aura l'occasion d'en reparler à la rentrée.
Et on croise les doigts. Alors d'ici là, à plus court terme, parce que vous regardez toutes les échéances, là, le mois de juillet, comment vous le sentez, le potentiel technique sur Bitcoin? Alors,
donc moi, j'ai plusieurs représentations, mais concrètement, le rebond là sur $57,550, je le voyais bien venir parce qu'il y a une conjonction d'outils techniques qui passe dans cette zone 57-58K. Pour autant, moi, je pense pas que ce soit le point bas final. Certains pensent, moi, je pense pas. Il sera probablement un peu en dessous. Moi, j'ai un scénario de reprise qui pourrait se prolonger jusqu'à la fin du mois, peut-être au début du mois d'août. Alors c'est vrai qu'en termes de saisonnalité, juillet, c'est plutôt un mois favorable, c'est même un des meilleurs mois de Bitcoin. Et puis, donc voilà, peut-être quelque part entre 66 et 70, je m'exprime toujours en dollars. Et puis donc, moi derrière, j'attends le fameux dernier bottom, celui qu'on attend tous, en tout cas ceux qui veulent se repositionner massivement proche du point bas, qui sera quelque part autour des 50-55K. Et ça, ce sera plutôt une affaire pour fin septembre, début octobre.
Voilà. Vincent Gann, merci Vincent de nous avoir accompagnés. Merci. Puis on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison. Vincent, si ça vous dit.
Oui, bonnes vacances à vous.
Bonnes vacances alors, à vous aussi. Le CAC 40, on en parlera tout à l'heure à l'ouverture des marchés américains aussi, où on suivra SKNX. Mais dans l'actu crypto, on va refaire les grands enjeux. Alors d'abord, les grands enjeux à venir, ceux de cet été, et on va dresser le bilan, donc cette année crypto, les perspectives aussi avec nos pros. Quels actifs sont les plus populaires auprès des Français? Plutôt les actions, le marché actions qui quand même monte bien, hein, le CAC 40 est presque sur un record, on le disait, ou plutôt les cryptos? Eh bien apparemment ce sont les cryptos, en tout cas le Bitcoin, qui auprès des Français est plus populaire, c'est ce qui ressort d'une étude. On ira dans les détails. Et on parlera aussi des stablecoins, des dynamiques en cours sur les stablecoins. Ces deux dernières années, c'était la fusée, hein, les stablecoins. Et sont-ils à leur tour, les stablecoins, éclaboussés par les déboires des cryptos? Nos pros nous diront les choses, ils suivent tout ça sans rien rater. C'est votre machine à condenser, à concentrer l'essentiel, comme chaque vendredi, disponible aussi en podcast et replay. Et notre chaîne YouTube, BFM Business, tout le week-end et tout l'été aussi. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec, ils sont là, Owen Simonin, Meria, salut Owen.
Bonjour.
Et Claire Balva, la Dan, bonjour, bonjour Claire, bonsoir, j'allais dire. Oui, peut-être que certains nous écoutent, nous regarderont la nuit, le soir, qui sait. on est dispo tout le temps, partout et au moment où vous le souhaitez. C'est la der de la saison pour les pros des cryptos. Alors avant, on mettait des bruitages dans l'émission. Maintenant, on en met un peu moins, on essaie de faire un peu plus sobre, mais ça nous empêche pas quand même de célébrer les au revoir. On va tout à l'heure essayer de dessiner l'avenir, bien sûr, dessiner ce qui pourrait nous attendre dans les 12 prochains mois, sera intéressant et ce sera pas périmable. Hein. Tout le monde pourra écouter ça tout au long de l'été. D'abord, votre bilan de la saison dans cet univers crypto. Quel a été pour chacun d'entre vous l'événement majeur, mais l'événement positif, hein, majeur de ces derniers mois, Owen?
Un événement positif dans une phase et dans une saison où le Bitcoin divise son prix par deux, il faut le trouver. Non, je dirais que pour beaucoup d'institutions financières, pour beaucoup de régulateurs, pour beaucoup de structures où les crypto-monnaies étaient encore un point d'interrogation, est-ce qu'on y ira un jour? Est-ce qu'elles seront réellement adoptées? Est-ce qu'elles finiront dans la poche de tout le monde? On est passé d'un « on y va » à un « nous y sommes ». Que ce soit pour les grandes institutions ou pour les grandes structures financières, aujourd'hui, la plupart d'entre elles ont une stratégie et une roadmap qui se dirigent vers les crypto-monnaies, ou alors elles ont changé leur fusil d'épaule et ne stigmatisent plus ces actifs. C'est vrai qu'on l'a, ça fait quelques années maintenant qu'on dit que les institutions arrivent. Là, c'est une vraie adoption. La seule chose qu'on constate, par contre, c'est que les particuliers, ils s'intéressent et se désintéressent très vite à un actif. C'est une question de mood, c'est une question de période et de tendance. Les institutions, quand elles prennent une décision, il faut 1 à 2 ans pour la prendre et ensuite 2 à 4, 5, voire même 6 ans pour exécuter le plan. Mais en tout cas, on l'a constaté, ça y est, les plus grandes structures de paiement ou banques du monde se positionnent sur les crypto-monnaies. Il était temps que ce soit plus tabou de parler de ces actifs.
Effectivement, et ces derniers mois auront permis de franchir un pas, peut-être de transformer l'essai. On n'est sans doute pas encore complètement au bout. Vous, Claire, qu'est-ce que vous retenez? Alors, dans un instant, on dira ce qu'on retient de négatif de l'année, parce qu'il y a beaucoup de négatifs aussi. Mais de positif, on est dans les pros des cryptos, on regarde avec beaucoup d'enthousiasme les choses.
Alors, c'est assez lié à ce que dit Owen, mais moi je dirais l'arrivée d'une réglementation adaptée aux États-Unis. Qui encourage aussi le régulateur européen à se demander comment faire de l'Europe une place attractive. Et donc, quelque part, les États-Unis, là-dessus, ont agi positivement pour l'industrie, même y compris pour l'Europe, qui se positionne en suiveur, mais se positionne quand même. Et donc, il n'y a pas, je dirais, un événement, mais une série d'événements, et notamment dans l'implication des banques sur le sujet crypto. On a vu tout au long de cette année un certain nombre d'annonces de banques allemandes, françaises, alors encore plus américaines, mais qui disent cette fois, bon, maintenant, ça y est, notre offre crypto, elle sort. Ça y est, on lance un stablecoin. Ça y est. Et ça faisait plusieurs années que sur ce plateau, on disait les banques vont y arriver, les banques se posent des questions, les banques travaillent. Et en fait, durant cette année, ce qu'on a vu, c'est enfin la sortie des projets, alors même qu'on a des coûts en baisse. Et donc ça, je trouve que c'est très positif, parce que alors même que le retail se désintéresse un petit peu du sujet, on a des institutionnels qui y vont à fond.
Oui, et ça devient de plus en plus institutionnel. Il ne faudrait pas non plus trop se couper du retail. On regardera comment le retail perçoit les cryptos dans un instant. Ça, c'est votre bilan en positif de l'année. Puis il y a le bilan en négatif. Vous avez même commencé, Owen, en disant « Difficile de trouver du positif dans une année où le Bitcoin est divisé par deux. » Alors, qu'est-ce qu'il y a de très négatif? Il n'y a que Bitcoin divisé par deux. C'est vraiment si important que ça, ou les enjeux crypto dépassent largement désormais le cours du Bitcoin?
Non, mais je dirais que comme beaucoup d'acteurs pure player crypto vivent justement de l'intérêt du retail, des volumes que ça génère et des commissions, avoir à un moment un désintérêt aussi brutal alors que l'écosystème a mûri et donc il est beaucoup plus mature, il demande beaucoup plus de dépenses réglementaires, ne serait-ce que pour avoir le droit d'exister. Donc à un moment où les revenus se retirent, il y a autant d'obligations, de dépenses et de conformité, et en plus de ça, il y a des nouveaux concurrents. Donc c'est le moment où les pure players crypto ont besoin d'avoir des ressources et ont besoin d'avoir des muscles, parce qu'en face d'eux s'installent des grandes institutions, des banques, et donc naturellement, ben, ça crée un certain déséquilibre. Et on le voit sur des petits projets crypto, il y a jamais eu autant de casse, il y a jamais eu autant de projets crypto, de tokens qui abandonnent et qui annoncent la fin de l'aventure. Et naturellement, on regarde pas mal de secteurs comme la finance décentralisée et d'autres domaines en lien purement avec, je parle bien de la blockchain et des cryptos, pas simplement Bitcoin, Ether et le top 5. On va dans les plus petites initiatives. Ben, y a beaucoup de bons projets ou en tout cas de bonnes initiatives qui n'iront pas plus loin, parce que là, la période de sécheresse risque d'être longue et naturellement, ceux qui n'ont pas les reins suffisamment solides n'ont pas d'autre solution.
Comme il a cassé l'ambiance, Owen, là.
Il a raison, et j'ajouterais même qu'en plus de cette sécheresse économique, je dirais, on a aussi fait face à une sécheresse un peu réglementaire, puisqu'en Europe, MiCA est arrivé. C'est la fin de ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire que les entreprises qui proposent des services sur cryptoactifs sont désormais censées avoir un agrément. Et donc, c'est là qu'on voit qui a eu l'agrément et qui ne l'a pas encore eu. Et ceux qui ne l'ont pas encore eu vont devoir petit à petit arrêter leurs activités. Et donc ça, évidemment, c'est très dur pour tout un tas d'entreprises et d'entrepreneurs. Alors, certains n'avaient déjà quasiment plus d'activité, mais d'autres encore des clients. Et donc ça, forcément, pour ces acteurs, nous, ça nous rendrait triste à la danne. Mais même plus largement, c'est un signal assez négatif sur le marché parce que ça concentre le marché. Il y a quand même moins de diversité. Et ça, c'est clairement le gros point négatif pour moi cette année dans le secteur.
Tout à l'heure, vous nous direz ce que vous espérez hein, ou vous attendez des mois à venir dans l'écosystème crypto cet été et au-delà de l'été. D'abord, cette étude Bitstack qui est parue cette semaine, les Français font désormais plus confiance au Bitcoin qu'aux actions pour protéger leur pouvoir d'achat. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit « ouais ». Et après coup, je me suis dit « dans ce cas, pourquoi les Français n'investissent pas plus dans le Bitcoin que dans les actions ?» Parce que quand même, beaucoup de Français détiennent aussi des actions. Est-ce que vous y croyez, vous, au fait que les Français privilégieraient le livret A? Le livret A, quand même, hein, au début, voilà, c'est quand même très important pour les Français. Puis après le livret A, le Bitcoin, et ensuite seulement les actions.
Moi, ça ne m'étonne pas du tout, Guillaume. Donc, je comprends que vous soyez étonné, mais ce qu'on a déjà vu depuis plusieurs années...
Je le dis quand même, parce que je viens plutôt du monde action et du monde financier, la bourse traditionnelle. Et c'est pour ça que je suis très surpris, parce que je ne m'attendais pas à ce que Bitcoin, dans la population large, soit considéré comme plus costaud, en tout cas privilégié, que les actions qui sont ancrées depuis plus longtemps.
Je comprends, mais ça fait plusieurs années qu'on a quand même des études qui montrent que les Français sont plus nombreux à détenir des actions en des cryptos que des actions en direct. Et donc, c'est pas très étonnant, finalement, que les Français fassent plus confiance à la reine des cryptos, qui est Bitcoin, qu'à des actions pour protéger leur pouvoir d'achat dans la durée. Et ce qu'on voit, alors je nuance quand même un peu le propos, effectivement, on a le livret A en premier, mais on a d'autres types quand même de produits, en particulier l'immobilier, l'or et l'assurance vie, qui restent devant Bitcoin. Mais Bitcoin, effectivement, est plus haut que les actions. Ça ne nous surprend pas pour ceux qui sont dans la crypto depuis longtemps. Mais ce qu'on voit aussi, et c'est intéressant, c'est que Bitcoin est très largement devant les autres cryptos. Et je pense que c'était l'objectif aussi de cette étude de Bitstack, c'est de dire finalement, Bitcoin et les cryptos, c'est pas exactement la même chose en termes de confiance, en termes de profil. Effectivement, il y a une différence aussi dans les intentions de détention, dans l'investissement long terme versus court terme, dans l'âge moyen des détenteurs. On voit là aussi toutes ces différences. Et cette étude, elle permet aussi de confirmer un certain nombre de chiffres, d'ailleurs, qu'on sort à la DAN tous les ans, en particulier sur la proportion des détenteurs. Et on voit que la proportion de détenteurs est confirmée aux alentours de 8-9% pour les détenteurs de Bitcoin exclusivement. Ce qui correspond à ce qu'on trouve à la DAN, puisqu'en France, on est à 11%, mais pour l'ensemble des cryptos, dont 8-9% sur Bitcoin.
Mais ce qui m'étonne aussi, c'est que le marché action, lui, est sur des records en ce moment, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Il a été dans des sommets il y a quelques mois, mais le marché action, lui, reste sur des records, ce qui n'est plus le cas du Bitcoin. Et donc, je me dis, oui, les Français privilégient le Bitcoin pour l'avenir plutôt que les actions, ça me surprend. D'autant que, voilà, vous le disiez tout à l'heure, on en parlait, la courbe d'intérêt pour les cryptos auprès du retail, du très grand public, elle a plutôt tendance désormais à décroître, Owen.
C'est quelque chose d'un peu fou, mais généralement, on dit qu'il n'y a pas d'anomalie évidente sur les marchés. Si une anomalie est évidente, tout le monde le voit et tout le monde le price. Assez rapidement, on anticipe l'anomalie. Alors que là, c'est quelque chose d'évident, ça a toujours été vrai et je crois que ce sera toujours vrai. Bitcoin est exactement le même que quand il était à 120 000 $, il fonctionne de la même façon, sauf que maintenant qu'il s'est cassé la figure et qu'il a divisé par deux son prix, plus personne ne veut en entendre parler. On parle de 18% des Français qui veulent investir en crypto-monnaie contre 25 ou 26% l'année dernière. C'est une tendance qui est évidente, qui se constate, qui s'applique surtout sur le retail, parce que j'aimerais pas avoir à comparer ces flux, par contre, avec les institutions qui, calmement, achètent tous les mois ou toutes les semaines dans cette période et qui étaient acheteurs au-dessus des 100 000 et qui le sont toujours aujourd'hui. La réalité, c'est que le particulier est suivi par une tendance, par un mood, par un effet de mode. Et quand cet effet de mode n'est pas là, que le Bitcoin soit bien plus abordable, car c'est souvent quand il a perdu beaucoup de valeur qu'il offre des meilleurs prix d'entrée, eh bien, ça ne change pas grand-chose. Les gens se désintéressent. Et je le vois, moi, par exemple, notamment sur les métriques, sur les audiences. On a atteint ce mois-ci un plus bas, et ça a encore été divisé par deux, sur les 90 derniers jours. Le marché retail se désintéresse de la crypto-monnaie à un moment où, en plus, il y a une autre technologie qui vient, au-delà de l'aspect financier, voler un peu la vedette avec l'intelligence artificielle. C'est comme ça, et ce sont des cycles, on le sait, et l'intérêt reviendra... moment.
Il suffit que ça remonte, tout simplement.
C'est ça, c'est une question de temps. Et puis, il faut également qu'il y ait des plus bas pour qu'il puisse y avoir des positions gagnantes et des gens qui savent se positionner. Ça fait une curation.
Ça montre qu'il y a les qualités des propriétés propres intrinsèques à Bitcoin, quel que soit son cours. Mais ça montre que l'intérêt auprès du public, ça reste le cours, manifestement clair. Alors que vous battez contre ça. Vous ne cessez de souligner que c'est plus qu'un cours, le Bitcoin. Mais c'est le cours qui fait quand même la tendance et l'intérêt.
Je ne suis pas complètement d'accord sur Bitcoin. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans cette fameuse étude de Bitstack. On voit que c'est pas juste la volatilité qui compte, puisque vous le dites, Bitcoin intéresse plus que les actions quand il s'agit de protéger le pouvoir d'achat à 10 ans. Donc évidemment que le prix est une variable non négligeable, mais on voit que les investisseurs dans Bitcoin ne sont pas aussi sensible qu'on pourrait l'imaginer à des variations prix très court terme. Et finalement, il se projette aussi dans le long terme avec cet actif. Il faudrait pas oublier non plus que les actions ont aussi une réputation de volatilité forte.
Oui,
hein.
bien sûr.
Donc, c'est vrai qu'on dit c'est incroyable, Bitcoin est vu comme plus positivement que les actions. Bon, les actions, c'est aussi réputé pour être très volatile.
Et les Français n'adorent pas les actions par ailleurs.
Tout à fait. Et la deuxième chose, c'est que, on le voit dans cette étude, les investisseurs en Bitcoin citent un certain nombre de motivations, et en particulier les femmes les citent encore plus que les hommes, sur la protection du pouvoir d'achat à long terme, sur la défiance envers les banques, etc. Donc, il y a aussi une philosophie qui peut conduire à investir en Bitcoin qui n'est pas que le prix.
D'ailleurs, on dit que les Français détiennent plus de crypto-monnaies en direct que des actions. C'est parce que beaucoup de Français détiennent des actions de façon indirecte. Le Bitcoin, et je prends vraiment cet actif spécifiquement, quand on s'intéresse au Bitcoin, on se pose les questions quand on veut détenir un actif en direct. Je veux dire, pour mettre suffisamment d'attention, pour télécharger son propre wallet, détenir sa clé privée, acheter du Bitcoin et le retirer, il faut s'intéresser à l'actif suffisamment pour se demander il y a quoi derrière et donc potentiellement se poser les questions qui font qu'on commence à lui faire confiance à horizon 10 ans.
Alors, Strategy, de son côté, continue de vendre des bitcoins. Le groupe a vendu pour 216 millions de dollars de bitcoins la semaine dernière. Mais alors, d'après Grayscale, c'est une bonne nouvelle. Ça pourrait être un facteur de stabilité pour le cours de bitcoin. Pourquoi, si Strategy en vend, ça stabiliserait le bitcoin?
Tout le monde a peur de Strategy parce que c'est le plus gros détenteur de bitcoin au monde. On parle d'un peu moins de 850 000 bitcoins. En gros, ils en ont tellement, s'ils doivent liquider leur stock demain, ils vont faire s'effondrer le cours. Encore une fois, ça ne voudra rien dire sur l'actif, son fonctionnement, sa technique, on le sait. Si le plus gros vendeur vient à vendre demain et déboucler, il va faire chuter le prix et il va créer une chandelle rouge sans précédent. Malgré tout, aujourd'hui, MicroStrategy s'endette énormément en vendant des produits, des senior bonds, pour pouvoir justement financer son achat de Bitcoin. Sauf qu'à un moment, on se demandait comment MicroStrategy allait être capable de rembourser sa fameuse dette. Eh bien, ils ont été capables de prouver qu'ils sont capables de vendre du Bitcoin et que s'ils en vendent 2, 3, 4 000, ça ne va pas faire s'effondrer les cours. Ça a fait baisser le Bitcoin de 2 ou 3 000, mais la plus grosse entreprise qui accumule du Bitcoin et qui jusqu'à présent disait, avec un discours très unilatéral, nous ne vendrons jamais, on accumule, on achète, on ne vendra pas, ils ont montré que pour une stabilité financière et pour honorer leurs dettes, ils savent quand même vendre sans faire effondrer le marché. Donc si ça fait un petit peu peur aux particuliers, encore une fois, pour les institutions financières, c'est vraiment un signe de maturité.
Les institutions financières, alors je rebondis parce que vous nous le disiez, c'est ce que vous retenez de plus positif de cette année, c'est vous, Claire, non, c'est vous, Owen, qui nous le disiez. Les institutions financières avancent dans leur adoption des cryptos. Ben, on en a un signe supplémentaire chez nos amis allemands. Les banques allemandes font un grand pas. Longtemps rétives, elles s'apprêtent, les banques allemandes, à ouvrir le trading crypto à des dizaines de millions de clients particuliers. Même les vieilles banques allemandes, Claire.
Oui, alors effectivement, ça m'étonne pas non plus beaucoup, puisque cette année, on a parlé sur ce plateau d'un certain nombre d'annonces des plus grandes banques allemandes qui, comme les grandes banques françaises, se mettent à la crypto. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le nombre d'agréments MiCA qui ont été donnés par les autorités françaises comme allemandes, on voit qu'il y a nettement plus d'agréments en Allemagne, quasiment deux fois plus. Et en fait, ce surplus d'agréments est notamment lié à des procédures accélérées pour obtenir l'agrément qui ont été données à des banques allemandes. En Allemagne, il y a beaucoup plus de banques qu'en France. Oui. Hein, le marché est moins concentré.
Banques régionales.
Et donc, il y a beaucoup, effectivement, de banques coopératives, de banques régionales qui ont été demandées cette procédure accélérée pour obtenir l'agrément. Et donc, c'est pas surprenant que, voilà, après avoir obtenu l'agrément, après avoir investi des ressources pour obtenir cet agrément, elles en fassent quelque chose. Elles n'allaient pas rester dans le silence. Et donc, c'est évidemment très intéressant de voir que des banques qui sont quand même réputées en Allemagne vont lancer ces offres de trading. On le voit aussi en France, hein, on l'a vu avec Exarc, par exemple, filiale de BBCE. Je pense qu'on va continuer à le voir, mais comme en France, on a un marché qui est plus concentré, forcément, les annonces sont un peu moins nombreuses et nécessitent un déploiement au sein des grands groupes dans de très nombreuses caisses. Donc, c'est parfois un peu plus long à venir.
Oui, Owen, les grandes banques allemandes s'y mettent aussi.
Ouais, puis c'est la dernière annonce, c'est une banque qui, en plus, il y a 3 ans, disait que les crypto-monnaies étaient vraiment trop volatiles pour intéresser leurs clients. Et aujourd'hui, ils le déploient dans une application qui touche 50 millions de personnes. Donc, c'est un message assez fort, c'est un message de fond. En fait, on est simplement en train de voir le concret arriver sur les marchés, alors que ce sont des décisions qui ont été prises il y a de plusieurs mois, voire plusieurs années, pour que ce genre de structure change sa culture interne et décide de livrer ça. Donc je pense que c'est juste la suite logique des annonces qu'on va voir tomber sur les prochaines années.
Je suis surpris dans le bilan de cette saison, des derniers trimestres, que vous n'ayez pas cité l'incroyable succès, boom, même on peut le dire, des stablecoins. Parce que ça aussi, ça nous aura occupé beaucoup d'émissions de développement
et de la tokenisation. C'est vrai que c'est les deux tendances, parce qu'en fait, c'est pas des tendances crypto. On utilise la blockchain comme un support technique. C'est pas Bitcoin, c'est pas Ether, c'est pas crypto, c'est pas DeFi. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est un peu moins dedans, mais là pour le coup, on regarde les courbes, c'est unilatéral, hein, ça monte et c'est la seule chose qui a été constamment en croissance sur ce cycle.
Oui, mais est-ce que ça change là? Parce que est-ce que vous voyez une porosité entre les difficultés du marché crypto et les stablecoins? Est-ce que leur développement, leur boom ralentit en même temps que les cryptos sont en train de baisser?
Il y a eu un premier pas de recul. Je crois qu'il y a eu 10 milliards de burn de stablecoin, alors qu'on est sur un marché qui est passé de peut-être 150 milliards à 350 milliards en un an. Je ne sais même pas si on peut parler d'un recul ou d'une respiration, pour être honnête. Hein.
Ouais. Et ce marché des stablecoins, il attend, alors pendant cet été, là, tout le monde ne va pas dormir, hein, cet été. Non, loin de là, il attend une date. Le 18 juillet, échéance majeure pour les stablecoins. J'ai lu ça cette semaine. Pourquoi 18 juillet, Claire?
Parce que, effectivement, le 18 juillet, les six grandes agences, les six grands régulateurs américains sont censés rendre leur copie sur la manière dont le Genius Act va être très concrètement appliqué. Donc ça veut dire quelles règles vont être obligatoires pour les grands émetteurs de stablecoin. Donc on pense à l'USDC, l'USDT. Donc autant vous dire que les régulateurs ne doivent pas être en train de chômer aux États-Unis parce que leur consultation, généralement vous savez, on ouvre une consultation, c'est-à-dire qu'on pose des questions à tout un tas d'acteurs privés et publics. Leur consultation s'achevait pour certains au mois de mai, pour d'autres au mois de juin. Et donc, il leur reste, ils ont eu à peu près un mois pour dépiler les réponses à consultation et pour rédiger concrètement les règles qui vont devoir s'imposer aux émetteurs de stablecoin. Et ensuite, le 18 juillet, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir du principe qu'ils seront tous à l'heure, les règles vont être publiées et les émetteurs de stablecoin vont bien évidemment tous aller les regarder. Et là, ils auront à peu près six mois pour expliquer comment ils vont se mettre en conformité et comment ils vont concrètement appliquer ces règles. Donc à partir de ce moment-là, ce sont effectivement les émetteurs stablecoin qui, eux, ne vont pas chômer et vont se mettre à bosser.
Oui, ça va bosser effectivement. Il y a le Genius Act dont vous nous parliez pour les stablecoins et puis le Clarity Act sur lequel vous nous alertez en nous disant juillet est une échéance importante sur le Clarity Act. Owen, on en est où? Est-ce que le Clarity Act avance?
Ça va être la plus grosse chandelle verte ou rouge de l'été. Je pense clairement que c'est le point qu'on peut souhaiter voir acté et la loi qu'on aimerait voir signée d'ici la reprise fin août.
Fin août des pros des cryptos, oui.
Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Clarity Act, on a l'impression que quelque chose est derrière nous, alors que c'est pas du tout le cas. Il y avait cette époque où on savait pas comment les États-Unis allaient considérer les cryptos. Est-ce que c'était la SEC? Et donc, est-ce qu'on parlait de securities? Ou est-ce que c'était des commodities régulés par la CFTC avec une réglementation beaucoup plus légère? Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, ça a été clarifié, mais d'un point de vue administratif. C'est-à-dire qu'on sait quelles crypto-monnaies rentrent dans quelle catégorie. Plus de manque de visibilité, plus d'incertitude, les institutions se positionnent, le marché a déroulé, BlackRock et le Bitcoin qui va battre son nouveau record. Ok. Le problème qu'il y a là, c'est comme c'est administratif, si ce n'est pas entériné dans une loi, définitivement, la prochaine administration pourrait venir et avoir une interprétation différente. On pourrait vraiment revenir en arrière alors que les marchés ont déjà bien avancé. Les marchés n'aiment pas revenir en arrière. Alors qu'est-ce qui se passe? Une loi, le Clarity Act, qui a déjà été voté pour à deux reprises, va encore une fois avoir besoin d'être soumis à un vote. C'est le vote final et il n'y aura qu'une fenêtre de tir d'à peu près 4 semaines pour le voter entre le retour de vacances des politiques américaines, le 14 ou 13 juillet, donc dans quelques jours, et le 7 août. En 3 à 4 semaines, ils doivent prendre cette décision. Si ce n'est pas le cas, à cause du calendrier électoral, il y a de grandes chances que cette loi ne soit pas votée avant 2029 ou 2030.
Oui, parce que là, il y a les mid-term et après, ça va être compliqué, oui.
Et donc, c'est vraiment un enjeu, c'est maintenant, et la décision doit être prise. Et si jamais il n'arrive pas à le voter, sachant qu'il y a un dernier truc qui coince dans cette loi, c'est une clause contre les conflits d'intérêts entre les politiques américaines et certains projets crypto. Donald Trump, dans sa déclaration de revenus cette semaine, a annoncé que les deux tiers de ses revenus venaient du monde des crypto-monnaies, 1,4 milliard sur 2,2 milliards. La Maison-Blanche a expliqué qu'elle refuserait de signer le Clarity Act avec cette clause contre les conflits.
Aïe, aïe, aïe.
Là, c'est un problème qui est vraiment mathématique et qui va se dérouler dans les semaines qui viennent.
Oui, la DAN, alors vous présentez la DAN ici en France, la DAN américaine, ça ne doit pas être évident en ce moment avec Donald Trump qui pousse les cryptos, en même temps qui vraiment est sulfureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez-vous, vous êtes la directrice générale, non pas de la DAN française, mais de la DAN aux États-Unis. C'est difficile à gérer.
Ah, c'est sûr que ça doit être difficile. Après, les États-Unis, ce n'est pas exactement la même culture que la France et l'Europe. Donc, je pense qu'ils sont un peu plus habitués à ce type de collusion, là où finalement, nous, en Europe, on a une réglementation contre les conflits d'intérêts qui est nettement plus stricte. Mais effectivement, j'aimerais pas être à leur place.
Au Royaume-Uni, aimeriez-vous être à sa place? Au Royaume-Uni, Nigel Farage, vous vous souvenez de lui sans doute, c'était le leader de la campagne pro-Brexit il y a quelques années. Eh bien, Nigel Farage, le Brexiteur, donc, a, selon le Sunday Times, reçu un financement non déclaré de George Cotterell, un homme d'affaires condamné lié à une plateforme de paris offshore en crypto-monnaie. Donc voilà, là, on a encore un truc pas très clair, pas très sain, manifestement clair.
Non, mais effectivement, on en parle simplement, je dirais, parce que cet homme d'affaires a une plateforme de paris offshore et cette plateforme de paris accepte notamment les paiements en USDT. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle dans le milieu crypto, parce qu'on suppose qu'une partie de l'argent pourrait venir des gains de cette plateforme. Et on comprend que Georges Cottrel aurait, je dirais, pris en charge un certain nombre de frais de Nigel Farage, notamment les frais liés à des ressources humaines, la sécurité, etc. Or, au Royaume-Uni, ce type de financement doit évidemment être déclaré, hein, comme chez nous, comme en France, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est pour moi presque plus un scandale de transparence politique et de
oui,
financement illégal que lié au crypto. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire sa fortune sur d'autres sujets. Là, on en parle parce que sans doute une partie de sa fortune est liée à la crypto. Mais je ne suis pas sûre qu'il ait payé les frais liés aux ressources humaines avec la crypto, par exemple.
Bon, on arrive presque au bout de ce dernier numéro de la saison, mais on vous retrouvera bien sûr fin août pour une nouvelle saison des produits crypto. Ce sera la 7e, hein, quand même, qui va démarrer fin août. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter là? Qu'est-ce que vous imaginez de positif à venir dans l'écosystème crypto dans l'année qui vient, là, Claire?
Alors, moi, je suis assez curieuse de savoir à quoi va ressembler justement l'écosystème crypto, parce que en réalité, plus qu'un écosystème, on est vraiment devenu une industrie mature, avec des acteurs qui ont grandi, pour les plus petits d'entre eux, qui ont réussi à passer le barrage réglementaire qui était celui de la mi-année. Et on accueille de nouveaux grands acteurs, c'est-à-dire les banques, les grands acteurs du paiement. Et donc, moi, j'ai hâte de voir comment cette industrie va continuer à grandir. Et alors, sur une note peut-être un peu moins positive, j'aimerais aussi voir comment les petits acteurs qui ont eu plus de mal, soit à passer ce barrage réglementaire, soit à atteindre une taille critique, vont pouvoir trouver des solutions pour soit se diversifier, soit se faire racheter.
Owen?
Tout à fait, il y a encore quelques bonnes entreprises, des très bons projets qui n'ont pas obtenu la licence et qui sont sur le fil du rasoir et qui aimeraient vraiment l'obtenir. J'espère que ce sera possible pour eux. Peut-être un été pas trop sec pour l'industrie crypto, avec si possible une ou deux innovations ou quelque chose qui rajoute un petit peu de pétillant sur ce marché qui est un petit peu calme côté pure crypto. Et un Clarity Act signé avant le début de l'été, ce serait vraiment bien pour tout le monde.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Owen Simonin, Asher avec un H. Bon, c'est la dernière de la saison. Combien d'abonnés, Asher?
812 500.
Oui, on sent que ça piétine un peu.
Ah bah,
c'est dur.
Quand on commence à dire les années et demie.
Voilà, c'est ça, exactement. Il est à la tête de Meria aussi. Merci beaucoup, Claire Balva, de nous avoir accompagné cette nouvelle saison ensemble également. Directrice générale de l'ADAN, les pros des cryptos. Ce nouveau numéro à retrouver tout au long de l'été. Et en podcast, en replay, sur notre chaîne YouTube BFM Business. Bon été à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.